parole du jour avec le Père Willem.
La vie, une grâce à accueillir. Oui, notre désir de vivre risque de prendre la forme d'une avidité. Ou bien, se heurtant à la réalité, il se replie, s'étouffe. C'est vers d'autres attitudes que nous sommes invités à nous orienter si nous suivons ce qu'indique le surgissement de la vie. La vie surgit. La vie est là, sans que nous y soyons pour rien. Sans non plus qu'il y ait à y chercher quelque justification que ce soit. Elle est simplement offerte en toute gratuité, la vie. Voilà qui s'accompagne de notre côté d'une radicale démaîtrise que les moments de bouleversement font éprouver tout particulièrement. Lorsque ma terre tremble sous la poussée d'une vie nouvelle, il me faut lâcher sécurité et appui du passé pour prendre une autre main. Le mouvement lui-même échappe à ma maîtrise et me la fait perdre. Il est hors de mes prises de pouvoir transformer quoi que ce soit, d'autrui ou de moi-même. Faire avancer plus vite le processus. Comprendre, savoir où mène le chemin, quel en sera le terme et plus encore, ce qu'il aura fait de moi. Pas plus que je ne peux maîtriser mes propres relations ou celles d'autrui. La seule possibilité est de me livrer à l'expérience, de la laisser faire, de me laisser faire par elle. La même des maîtrises est en réalité tout aussi présente lorsque la main du Créateur est reconnue sur fond d'un ciel immédiatement serein. Car nous ne commandons en rien ni le moment, ni la forme, ni l'intensité du surgissement de la vie en nous, encore moins ses effets. Une telle démaîtrise ne signifie en rien absence, au contraire. Elle en est, et par elle, nous est donnée une présence à nous-mêmes, à la création, au Créateur. Toutes les expériences que nous avons évoquées dans l'émission d'hier nous touchent au corps. Elles nous rendent présents à ce que nous sommes dans la densité et la singularité propre à chacun avec la force de l'élémentaire. Elles nous rendent présents à ce qui se présente. À la différence de nos rêves, le surgissement de la vie nous ramène toujours au réel. C'est particulièrement fort dans le cas d'une décision ou lorsque se recompose le paysage de notre existence. Mais quelle est celle des expériences que nous venons de passer en revue qui n'est vécue dans une relation à l'autre et aux choses ou orientée vers elle? Cette présence réelle prend la couleur d'une confiance accordée à ce qui est plus qu'à ce que nous imaginons ou désirons, une confiance qui n'est en rien naïve et n'esquive pas la douleur, celle de la blessure en attente du pardon ou du craquement avant le remodelage de notre vie. Elle intègre le réel avec ses ombres autant qu'avec ses lumières. Elle est surtout présence à autrui, présence d'autrui. C'est pas tant lorsque la vie se manifeste sous l'effet d'une rencontre, d'une parole ou d'un événement. La vie vient toujours d'ailleurs d'un autre, même lorsque c'est en nous-mêmes que nous en entendons le surgissement gratuit. Pas de gratuité sans don, c'est-à-dire sans un donateur autre que moi-même et m'empêche de m'encercler en moi-même. Accéder à ma liberté par l'accueil d'une décision qui, en étant mienne, est éprouvée comme réponse à un appel, le fait découvrir avec une force unique. C'est aussi la grâce propre aux alternances dont est tissée notre vie, de nous permettre, si nous ne les vivons pas en nous laissant simplement balloter de l'une à l'autre, de laisser apparaître plus profond que ce qui nous affecte, la solidité d'un autre avec majuscule, qui nous porte alors dans l'existence et dont la fidélité nous assure au-delà des alternances et pour les vivre. Merveille d'une vie qui est bien mienne, puisqu'elle est en moi et me constitue et qui m'advient comme mienne par la grâce d'un autre. Je ne nais à moi-même que par la grâce d'un autre. Oui, en me remettant radicalement à un autre, c'est moi-même que je trouve en une naissance nouvelle. Et cet autre n'est pas ailleurs qu'au fond de moi-même. Pas ailleurs, non. Il a fait de moi son temple, puisque je suis créé à son image et à sa ressemblance. Une telle présence se donne. Et cette présence est dense, juste. Nous la contemplons dans le Christ de la Passion. Elle déboulonne les idoles, libère les oppressions, car elle permet de ne rien confondre avec la vie ou avec son origine, de ne s'asservir à aucune créature, de trouver sa liberté, quelle que soit la violence que les puissances internes ou externes tentent d'exercer et donnent la force de les détourner. C'est dans notre temps, sur les deux registres complémentaires de l'instant du surgissement repérable et que l'on voudrait prolonger, et de la durée lente d'une maturation obscure que s'expérimente l'acte créateur. De ce fait, il conduit à goûter le temps ou à l'endurer. La plénitude et l'épreuve du temps se donnent à vivre. Sa plénitude, lorsque le surgissement de la vie engendre cette qualité de présence. Son caractère éprouvant, car dans tout processus de création, je ne saisis pas immédiatement ce qui se produit, ce qui se défait comme ce qui se construit. Le goût de vivre fait désirer cette plénitude sous forme d'achèvement. Mais la construction humaine ne se fait que peu à peu, et ce sont aussi les instants de joie qui permettent de durer dans l'attente, de même que l'attente leur donne tout leur éclat et leur poids. La création gémit en travail d'enfantement. Oui, la tentation serait de nier la création en raison du gémissement. Mais c'est bien dans la composition des deux, l'éclat de l'instant et la douleur ou le secret de la durée, que s'expérimente une autre dimension importante de l'acte créateur. Le lent travail de création ne doit pas en effet faire oublier ce qui est un donné. Nous sommes créés. C'est fait. C'est toujours déjà là, à la racine. La vie est première, déjà donnée. Mais parce que ce donné originel n'est en rien une explication, parce qu'il est don d'une vie, il convie à une tâche. Nous sommes constamment invités à nous laisser créer et recréer. Nous ne pouvons profondément accepter d'être créés qu'en nous laissant créer au jour le jour et d'y consentir vraiment. C'est tout le cheminement de notre existence jusqu'à la mort. Mais, dira-t-on, pourquoi parler de création? Ne serait-il pas plus juste de reconnaître à l'œuvre ici salut et résurrection, ou tout simplement la vie? Millénaire nouveau. Oui, quel homme sensé, quel cœur sensible peuvent croire que changeront la lumière et la couleur sur la toile du peintre et la sublime forme qui naît sous les mains de l'artiste. La vérité n'est pas à l'intérieur de la forme, et les vers du poète, ces traverseurs de siècles, immortelles fleurs de la rhétorique des images, perdureront encore pour notre plus grand bonheur. La beauté de la femme, le parfum de la rose, l'infini d'un sourire gratuit, la pensée de l'homme juste, la joie de l'âme qui donne et puis reçoit au centuple, la légèreté des rêves et la densité des réalités, la chaleur du don et le souffle incendiaire de l'amour. Oui, tout cela sera encore demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, parce que veilleront l'eau blanche de l'innocence et le cœur de la lumière, paroles immobiles d'un ciel d'éternité, miracle de la vie toujours renouvelée. Oui, tout va se prolonger sans se figer, s'affirmer sans s'affadir, grâce à une alchimie subtile dont la nature a le secret. À force de parler aux hommes et de regarder les étoiles, à force d'aligner ses vers sur le papier, le poète a appris un secret, le voici. Gardons-le entre nous. Il n'y a que deux choses essentielles pour chacun, l'instant et l'éternité. Et la seule issue pour être éternel, c'est de vivre l'instant présent en plénitude et d'en faire l'offrande à l'éternité souveraine.